Vous m'en direz des nouvelles ? Jean-François Cadet, Michael Goncalves, Tania Tsikounas.
Bonjour, bonsoir. Après le Covid-19, allons-nous vers un nouveau monde? En ces temps d'incertitude quotidienne, RFI tente de répondre à cette question à travers trois journées spéciales jusqu'à dimanche prochain. Trois journées et trois invités dans cette émission. La chanteuse Angélique Kidjo, le scénariste, dessinateur et réalisateur Enki Bilal et l'écrivain Bernard Werber. Nous chanterons, nous déciderons ou nous écrirons le monde qu'ils espèrent pour demain. Mais pour commencer, le téléphone sonne à Brazzaville, chez un musicien. Bonjour, Sonore Digital.
Bonjour, François Cadet.
Vous êtes guitariste, chef d'orchestre du groupe congolais de Brazzaville, Extra Musica, Nouvel Horizon, et vous avez composé une chanson pour parler du Covid. On l'écoute.
Extra Musica, Nouvel Horizon, chanteur.
C'est la belle mer régulièrement avec de l'eau et du savon.
Éviter tout contact corporel.
Alors racontez-nous, Sonore Digital, racontez-nous l'histoire de cette chanson. Comment elle est née?
Bon, alors, l'histoire de cette chanson, en venant d'une tournée en Côte d'Ivoire, on arrive chez nous à Brazzaville. Le gouvernement a décidé que le pays puisse être confiné par rapport à ce fléau que tout le monde connaît. Donc, on avait notre grand concert de Brazzaville, au Palais du Congrès de Brazzaville. On a eu reporté à cause de ça. Et comme on est des leaders d'opinion, on a pensé responsable et utile de sensibiliser la population par rapport à cette fléau. On a commencé à réfléchir comment faire et on est allé au studio. On a réalisé cette chanson et on a fait suivre la chanson avec son clip.
Donc notamment autour des gestes barrières, alors il y a eu la chanson en elle-même, il y a eu effectivement le clip comme vous disiez, vous avez diffusé tout ça sur internet, à la télévision, mais aussi dans la rue, sur des panneaux publicitaires.
Voilà.
Ça c'est vraiment le rôle des artistes, d'être à ce point aux côtés de la population pour les bonnes pratiques?
Nous on a pensé que c'est comme ça parce qu'aujourd'hui, nous, Extra Musica, on a ajouté Extra Musica à Nouvel Horizon parce que on veut faire des choses autrement et on veut voir la musique dans une autre lignée des choses. Nous, notre métier, c'est la population qui nous fait vivre. Donc, de notre côté, c'est comme si on a fait de bon. On peut dire de la gratitude. Donc, rendre la main à la population.
Mais ça va très loin quand même, Sonore Digital, parce que vous avez aussi mené des actions de terrain, des distributions.
Ouais, des distributions, parce que nous, on sortait d'une tournée, donc on avait pu gagner quelque chose. Ça concerne tout le monde, ce fléau. On pouvait pas être indifférent à cela. On a pensé aux plus démunis. On a fait ce qu'on a pu faire. Il n'y avait pas que les vivres, il y avait des kits pour laver les mains, des gants, des masques, pour essayer de les sensibiliser aux plus démunis. Pour nous, on a pensé que c'était raisonnable de le faire.
Et est-ce que vous pensez que les bonnes pratiques, les gestes barrières sont entrés aujourd'hui dans les mœurs des Brazzavillois?
Oui, les gestes barrières, aujourd'hui, les pratiques sont vraiment entrées dans les mœurs à Brazzaville parce que sur les médias, c'est pas que Brazzaville, c'est toute la planète. Donc, c'est quelque chose de très, très grave. Même ceux qui ne faisaient pas attention à ces choses-là, aujourd'hui, tout le monde est au courant, tout le monde sait qu'on doit faire attention. On doit rester chez soi pour sauver des vies, voilà.
Et est-ce que vous pensez, Sonore Digital, qu'il y a encore du temps, de la place, qu'on a l'esprit suffisamment libre aujourd'hui pour composer, pour créer, pour continuer la vie d'artiste telle qu'elle était avant?
Bon, on garde espoir parce que quand on se voit par la face, nous les artistes, c'est un coup pour nous parce que tout est bloqué, on ne peut pas bouger, on ne peut ni faire des concerts, même répéter, donc tout est en stand-by, mais on garde espoir que tout ça va finir. Je pense qu'on pourrait reprendre notre vie.
Dernière question, Sonore Digital, question posée à tous ceux qui vous ont précédé dans cette émission et qu'on appelait en Afrique. Est-ce qu'il y a un livre, un film ou une chanson qu'à l'occasion de cette période un petit peu particulière, on pourrait redécouvrir avec vous?
Non, moi, tout d'abord, Je veux dire, un livre, une chanson en particulier, moi je préfère que nous, Extra Musique à Nouvel Horizon, on a mis à la disposition notre chanson pour sensibiliser, la chanson pour sensibiliser à cause de cette créole-là. Et on a notre matrice qui est sortie à 3 mois ou 4 mois de cela. Donc je conseille à tout le monde d'écouter l'album Choc qui est déjà disponible sur toutes les plateformes.
Merci, merci beaucoup Sonore Digital d'avoir été en ligne avec nous de Brazzaville et la meilleure journée possible à vous et à vos proches.
Merci, c'est à moi de vous remercier.
Claudia le miel, c'est ton affection. J'en fais beaucoup pour combattre le poison souci. Tu es mon bonheur, Ikia. Ouh, 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 ouh. Nazala corpoyant renard Claudien, tu n'aurais même pas parlé, tu as tout mon fromage et tout mon cœur. Ikia. Maman bonheur.
Et retour à Paris avec vous, Fanny Bleffner, bonjour.
Bonjour Jean-François.
Alors dans le domaine du spectacle vivant aussi, hein, on se demande évidemment à quoi ressemblera l'après. Tous les théâtres de France sont fermés depuis mi-mars et ignorent toujours quand ils pourront rouvrir leurs portes. Le théâtre de l'Atelier à Paris est lui aussi dans l'incertitude, mais entre craintes économiques et soucis de la performance, il profite de cette étrange période pour proposer un Cyrano confiné. Fanny Bleffner.
Jacques Weber aurait dû passer le printemps sur les planches de l'Atelier dans le 18e arrondissement, mais les événements en ont décidé autrement. Pas question pour autant de mettre sa vie de comédien totalement en suspens, l'acteur a voulu rester actif.
Je me suis dit, dans quelque chose d'assez précipité, il faut que je puisse mettre très vite au point quelque chose donc que je connais et autour duquel je puisse proposer un type un peu différent de ce que l'on faisait avant. Cyrano, d'abord, je le connais, d'autre part, c'est un personnage qui parle à tout le monde.
Cyrano de Bergerac, un personnage qui lui colle à la peau. Cette fois, c'est un Cyrano confiné qu'il propose, une création digitale sous la forme de pastilles vidéo diffusées chaque semaine.
Je manie très mal l'ordinateur, on m'a expliqué un peu comment ça se passait, pour entretenir, encore une fois, une conversation à bâton rompu, un peu hasardeuse, un peu sur le rythme de la conversation, justement. C'est ça qui est passionnant, ça n'a rien de théorique, de dogmatique.
Concrètement, ce sont donc des réflexions autour du personnage d'Edmond Rostand qu'il a interprété plus de 500 fois sur scène.
Bonjour, donc voilà, j'ai 70 ans. Et lorsque j'ai créé Cyrano au théâtre Mogador, j'en avais une trentaine, même pas, c'était en 83. Et maintenant, je me dis, mais comment je pourrais le jouer, comment je le vois, comment je vois tout ça? C'est très, très compliqué.
Ce rôle, il l'a donc joué à tous les âges, et notamment le jour de ses 40 ans, aux côtés de Gérard Depardieu. Cette réplique l'a particulièrement marqué.
Vous voyez, lorsqu'on a trop réussi sa vie, on sent, n'ayant rien fait, mon Dieu, de vraiment mal, 1000 petits dégoûts de soi, dont le total ne fait pas un remords, mais une gêne obscure. Et les manteaux de duc traînent dans leur fourrure, tandis que...
Dans sa vidéo de 3 minutes, on apprend aussi toutes sortes d'anecdotes, par exemple le fait que le général de Gaulle appréciait particulièrement le 4e acte de la pièce. Ce format vidéo a été pensé en collaboration avec le directeur du théâtre, Marc Lesage.
C'est ce secret de la réflexion, ce secret de la méditation sur un personnage et comment on construit une histoire. D'habitude, c'est quelque chose qu'on voit après le spectacle, c'est une sorte de making-of. Après, on espère que montrera le travail de répétition aussi.
Reste à savoir quand le théâtre pourra rouvrir ses portes. Marc Lesage serait partisan de mesures strictes, quitte à patienter jusque janvier.
Si c'est pour ouvrir au mois de septembre, dans un contexte de restrictions maximales, avec un fauteuil sur trois occupé, des spectateurs masqués, des précautions sanitaires très difficiles à mettre en place, etc. Je ne suis pas sûr que ce soit rendre service ni aux spectateurs, ni aux œuvres, ni aux artistes. Dans un théâtre privé, il faut savoir que l'économie du théâtre ne repose que sur les recettes. Si les recettes sont de fait divisées par 3, rien qu'à l'ouverture des portes, on sait tout de suite qu'on va dans le mur.
En attendant, Jacques Weber profite de ce temps mis à disposition.
Cette espèce de calme, de rythme tout à fait autre que celui auquel, trépidant auquel on est habitué, me permet de voir les choses différemment, peut-être même les rôles d'ailleurs que je vais avoir interprétés. L'imagination au pouvoir abat l'argent roi. J'avais 16-17 ans quand je clamais en 68 ces ces slogans, et ma foi, ils sont encore extrêmement d'actualité.
Les vidéos sont à retrouver sur le site internet du Théâtre de l'Atelier ainsi que sur Facebook.
Fanny Bleffner dans VMDN sur RFI.
Il a fallu en arriver là pour nous rassembler, prendre conscience de l'importance de l'humanité. Ce combat, c'est le monde entier qui doit le mener, car il n'y a pas de couleur ni de religion pour être confiné. Il a fallu en arriver là pour les remercier, ces héros du quotidien qui sont comptés. Sacrifient leur vie au nom de notre santé. Ces mêmes qui criaient dans la rue, venez nous aider. Et demain, on fera quoi? On recommencera, l'homme est comme ça. Mais demain, ce sera nous, les maîtres du jeu, un point c'est tout. S'aimer encore, danser encore, sourire encore, s'embrasser plus fort.
Et demain, c'est la question que nous nous posons toute la journée sur RFI, à l'instar de ces 350 artistes réunis devant leur webcam pendant le confinement pour une chanson Kaléidoscope au profit de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France. Et c'est la question que je vais poser à nos trois invités qui sont en ligne avec nous. Pour commencer, la chanteuse Angélique Kidjo, bonjour.
Bonjour.
Vous avez reçu, Angélique Kidjo, au mois de janvier dernier, votre quatrième Grammy Award pour votre album Célia, hommage à la pionnière de la musique afro-cubaine Célia Cruz. Vous êtes la marraine de la saison Africa 2020. Il faut dire que vous êtes une militante inlassable du développement de l'Afrique et notamment de la cause des femmes et des enfants en tant qu'artiste, mais aussi en tant qu'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF et via votre fondation Batonga. Également avec nous, un des romanciers français les plus lus sur la planète. Bonjour Bernard Werber.
Bonjour.
Grand auteur de best-sellers, depuis la trilogie des fourmis au cycle des chats, en passant par celui des anges, des dieux, des aventuriers de la science et même de la troisième humanité. Dans Troisième Humanité ou dans Demain les chats, on parle d'ailleurs d'épidémie, du retour de la peste, on va sans doute y revenir. Vous êtes également l'initiateur de l'Arbre des Possibles, qui met l'imaginaire au service des futurs de l'humanité à court, moyen et long terme, en liaison avec les internautes. Bref, vous êtes un créateur de monde, tout comme l'auteur de bande dessinée et cinéaste Enki Bilal, qui est également avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Alors, on a souvent dit, Enki Bilal, que vous étiez un auteur visionnaire. On a dit que le sommeil du monstre en 98 préfigurait les attentats du 11 septembre et le monde sous la menace terroriste, que Partie de chasse, un de mes albums cultes que vous avez signé en 83 avec Pierre Christin, annonçait la désintégration du bloc soviétique, et vous étiez venu dans cette émission nous présenter Bug, dans lequel le lanceur d'alerte que vous êtes aussi nous présentait un monde à l'arrêt suite à une panne informatique planétaire. Alors, pandémie numérique ou pandémie biologique, dans les deux cas, vous le savez, on utilise le mot virus. Alors ça commence à faire quand même un petit peu beaucoup. Vous disiez depuis très longtemps, Enki Bilal, que l'enjeu du siècle, l'enjeu du 21e siècle serait de réinventer une nouvelle vie. Cette fois, ça y est, c'est plus de la fiction, c'est la réalité.
Bah, écoutez, oui, c'est une forme de réalité. Alors réinventer, on en parlera évidemment au cours de l'émission d'après. Hein. Mais il est évident que le virus, médical, le virus maladie, celui qu'on est en train de vivre, est beaucoup plus tragique à traiter que le virus informatique. Donc moi, j'ai réellement, à plusieurs reprises, pensé à traiter ce sujet du virus, de la pandémie en tout cas planétaire, et j'ai renoncé à chaque fois parce que je trouvais que le sujet était trop macabre quelque part. Alors que le virus numérique, c'est un peu nos addictions qui sont en cause, hein. Donc on est un peu responsable. Alors on pourrait dire aussi qu'on est responsable des virus qui nous tombent dessus, parce qu'on maltraite la planète, parce qu'on maltraite les animaux, et que finalement tout ça, ça se retrouve peut-être en effet boomerang sur nous, mais c'est d'un tragique qui n'est pas très 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 propice à la fiction. Voilà, c'est un peu ça le sujet pour moi, ça a été de ne pas traiter ce sujet alors que ça fait 5-6 ans que j'y pense.
Et pourtant vous, Bernard Werber, vous avez osé, hein, si j'ose dire, puisque avant que le coronavirus ne s'abatte sur le monde, eh bien vous avez traité du retour de la peste, hein, dans un livre paru récemment, Sa Majesté des Chats. Ça veut dire que cette menace, elle était sous-jacente dans la société que nous vivons?
Oui. Et vous savez, il y a l'Apocalypse de Saint Jean qui annonce quand même qu'il va y avoir quatre attaques qui vont ramener l'humanité à un niveau plus bas. Donc moi j'aime bien ces, ces textes anciens qui ont été écrits il y a 2000 ans, qui sont en train de parler de ce qu'on vit actuellement. J'ai l'impression que l'humanité, de toute manière, ne pouvait pas tout le temps être dans le toujours plus d'enfants, toujours plus de consommation, toujours plus d'argent, toujours plus de destruction de forêts, toujours plus d'usage de la planète. Il y a un moment, il faut quand même s'arrêter et réfléchir, et c'est ce qui est en train de se passer.
Donc nous sommes responsables, comme le disait à l'instant Enki Bilal ?
Nous sommes... C'est un phénomène biologique normal, oui. On est responsable de ce qui se passe. Et de toute façon, la nature, on n'a plus de prédateurs. Donc la nature ne peut plus nous envoyer des lions.
L'homme est un prédateur.
Nous ramener, voilà, ne peut plus nous ramener à la sagesse par la peur. Donc c'est l'infiniment petit qui s'attaque à nous et nous oblige à nous surpasser et aussi à nous poser de nouvelles questions. Je crois que s'il n'y avait pas eu cette crise du Covid-19, le monde aurait continué à rentrer dans cette mécanique de croissance, du règne de la croissance. On doit toujours avoir plus de choses, plus d'objets pour pouvoir être heureux. Mais cette croissance, c'était logique tant qu'on découvrait de nouveaux territoires. Mais actuellement, vu qu'on a découvert que la Terre était finie et qu'on n'est toujours pas arrivé à coloniser d'autres planètes, ben on est en train d'étouffer dans un univers fermé. Donc il faut devenir raisonnable ou nous allons forcément dépérir.
Alors Angélique Hidjo, vous partagez, j'imagine, le constat de Bernard Werber à l'instant, puisque vous avez signé cette tribune publiée mercredi dernier dans le journal Le Monde, à l'initiative de l'actrice Juliette Binoche, de l'ancien ministre Nicolas Hulot, de l'astrophysicien Aurélien Barraud. Hein, 200 artistes et scientifiques du monde entier ont co-signé ce texte qui appelle à un engagement massif et déterminé en faveur d'une transformation radicale. Alors je vous pose la question plus précisément, Angélique Hidjo, qu'est-ce qu'il faut transformer radicalement ? Qu'est-ce qu'il faut changer ?
Moi, je dirais que je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, mais on oublie toujours, souvent, l'histoire. Qu'est-ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui ? Comment est-ce qu'on en est arrivé à une société de consommation sans arrêt et à vouloir plus de pouvoir et plus d'argent et que l'être humain a perdu l'importance d'une vie ? Notre vie a un prix. C'est-à-dire que du moment où on a mis un prix sur un être humain à travers l'esclavage, parce que les esclaves africains ont travaillé 400 ans sans être payés, et cet argent a permis de construire des sociétés riches. Le capitalisme, le fond, l'argent qui a fondé le capitalisme est parti du travail des Africains pendant l'esclavage. Et ça, on n'en parle jamais. Le code du travail tel qu'on l'a mis, c'est pour ne plus l'appeler l'esclavage, mais c'est pas l'employé qui décide de combien il doit être payé à l'heure. C'est le système des grands groupes et des industriels qui ont décidé ça. C'est-à-dire on a mis un prud'homme en place, mais souvent devant le prud'homme, l'ouvrier est toujours perdant. C'est-à-dire que son travail, l'homme offre son travail, mais ce n'est pas un travail qui lui rapporte ce que ça doit lui rapporter, mais ça rapporte plus à ceux qui ont mis ce travail en place.
Mais quel rapport avec le virus ?
Par rapport au virus, c'est parce que justement, si on avait mis l'être humain au centre, c'est-à-dire que si on avait fait attention à ce qu'un être humain ne soit pas réduit à un objet, on n'en serait pas là. Pourquoi on consomme autant ? C'est parce qu'on a fait de l'argent facile, on s'est dit qu'on peut continuer avec la technologie, avec cette rhétorique de plus d'argent, plus de pouvoir et plus de choses dont on n'a pas besoin. On a fini cette course en se disant la nature, même si elle est finie, elle pourra toujours se reconstruire, se renouveler. Tant qu'on continue et qu'on fait un peu attention de par-ci par-là, ça peut aller. Moi, j'ai grandi avec une grand-mère qui était très, très proche de la nature, qui m'a toujours dit, quand tu prends quelque chose de la nature, il faut redonner à la nature. Quand on déterre un arbre, il faut en planter un autre. Parce que sans la nature, on ne peut pas exister. Nous sommes dans un écosystème qui fonctionne dans les deux sens. Et on a perdu de vue tout ça parce qu'on est parti dans cette logique en oubliant l'humain, en fait.
Mais alors la nature, elle a quand même du ressort, Enki Bilal, parce qu'on a vu hein, depuis le début du confinement que cette nature, elle pouvait reprendre ses droits très très vite. On a tous vu ces images de dauphins qui se sont mis à sillonner la lagune de Venise, ce puma dans les rues de Santiago au Chili, ou même plus près de nous en France, ces oiseaux qui sont revenus en bord de Seine à Paris. C'est un petit peu comme dans votre BD Animals, quoi, non ?
Oui, mais c'est d'autant plus féroce et dur pour l'être humain qui réalise tout d'un coup à quel point on a pris sur le territoire des animaux, à quel point on leur a volé leur espace, à quel point on ne sait pas et on n'a pas voulu partager de cet espace. La planète est vaste, mais elle ne l'est plus du tout. Elle est de moins en moins, l'industrialisation, tout ce qu'on est en train d'évoquer, que ce soit l'historique, que ce soit le social, que ce soit le passé, tout converge vers ce moment où effectivement on était au pied d'un mur, d'un système financier lourd, économique, injuste, qui était sur le point de s'écraser contre un mur. Eh bien, il y a un virus qui l'a arrêté juste avant.
Un coup de sang de la planète.
C'est un coup de sang de la planète, et moi, je reste extrêmement ému et touché par ces images d'animaux qui tout d'un coup, à la fois perdus parce que n'ayant plus leur nourriture, cette nourriture presque infecte que les hommes leur ont imposé, ces habitudes infectes que les hommes leur ont imposées, ces animaux se libèrent. Et là, j'ai bien peur que le redémarrage soit violent de nouveau pour eux. Il n'est pas sûr que nous, on sache tirer des enseignements de cette aventure, et qui pourtant pose énormément de questions. Donc en fait, la nature, en tout cas, il ne faut pas s'inquiéter pour elle d'une certaine façon. Quoi qu'il arrive, si on lui fait du mal, si on continue à lui faire autant de mal, elle s'en sortira toujours. L'homme disparaîtra, mais elle s'en sortira toujours et sera régénérée, et redeviendra, reprendra tout simplement ses droits. Et ses droits, ils sont planétaires. On est dans un cosmos, on est dans un système solaire qui lui-même est dans une galaxie. On est dans quelque chose qui dépasse totalement l'arrogance humaine. Donc c'est en ça qu'il faudrait qu'on réfléchisse un tout petit peu à notre avenir.
Bernard Werber, vous êtes plus inquiet pour l'être humain ou pour le reste de la nature?
Ben d'abord, je crois qu'il faut trouver un équilibre entre l'être humain et la nature. L'être humain ne peut pas être vainqueur de sa planète et des autres espèces sans en payer le prix. Je crois qu'on pourrait visualiser ça un peu comme un chien avec des puces. Nous sommes des parasites, nous sommes des puces sur un chien. Nous prenons du sang sur le chien. Mais il y a un moment, si nous reproduisons sans aucune auto-limitation, ben, le chien, s'il est entièrement recouvert de puces, il finit par se gratter, il finit par se mordre et il finit par essayer de détruire toutes les puces. Donc il y a une sorte de compromis, de dialogue à créer avec cette entité vivante sur laquelle nous sommes des parasites, prendre conscience que la Terre vit, que nous ne sommes pas les plus forts. Peut-être qu'il faudrait créer à l'ONU une ambassade de la planète, c'est-à-dire quelqu'un, un être humain qui soit désigné pour défendre les intérêts de la planète, de même qu'on pourrait créer un ambassadeur des générations suivantes, quelqu'un qui vote en disant ben, « je pense que dans l'intérêt des générations suivantes, on devrait faire ça ou ça », comme si c'était un pays, comme si c'était une entité dont on doit tenir compte. On ne pourra pas toujours continuer avec l'ancien système, parce que l'ancien système, au bout d'un moment, ça veut dire qu'on ne va plus avoir d'air à respirer, ou il va être privatisé. L'eau va devenir de plus en plus acide, donc remplie de méduses, et on n'arrivera plus à trouver du thon, on n'arrivera plus à trouver de biodiversité dans les océans. Et puis, il va y avoir des sortes de bulles dans lesquelles vivront les riches, et puis les populations plus pauvres vivront autour dans des conditions de plus en plus difficiles. C'est ce qu'on voit, la dynamique qu'on voit, c'est une isolation de quelques zones où les gens ont des pouvoirs extrêmes et d'autres où ils en ont plus du tout, donc une sorte de retour à l'esclavage. Et la meilleure manière d'arriver à éviter ça, c'est l'autocontrôle, l'autorégulation. Déjà, peut-être penser à réduire le nombre d'êtres humains. Quand on sera à 10 milliards, ça sera difficile de demander à 10 milliards d'êtres humains de ne pas polluer, de ne pas consommer, de ne pas avoir des droits. Et à ce moment-là, il me semble qu'il y aura des fortes risques de friction. Alors que si nous commençons à stopper la croissance démographique, voire à rentrer dans une décroissance démographique, on pourra aimer les enfants, les éduquer et les suivre plutôt que de les laisser à l'abandon. Donc il y a une pensée globale d'espèce et non pas de pays à pays, mais de nous penser comme ces puces sur un chien qui doivent se réconcilier avec le chien et arrêter de lui faire du mal.
Do my fun. keep your distance, please. Come groove along and dance with us, mama. Let's come together, sing this, papa. Pata pata means to touch and to feel, which we shouldn't do. Everybody can help fight COVID-19 by doing what we need to do. It's the time to sit it out. Stay at home and wait it out. This is what we gotta do, mama. Hey, this is what we gotta do, papa. Keep your distance, please. Groove along and dance with us, mama. Let's come together, sing this, papa.
No pata pata sur RFI. Angélique Kidjo qui est avec nous dans VMDN pour inventer le monde d'après avec le scénariste, dessinateur et réalisateur Enki Bilal et l'écrivain Bernard Weber. Alors Angélique Kidjo, on a tous évidemment reconnu la mélodie du tube à succès de Myriam Makeba. C'était il y a 53 ans, sauf que vous avez changé un tout petit peu les paroles. Là, vous avez transformé pata pata qui signifie toucher en no pata pata. Donc en gros, ne vous touchez pas, gardez vos distances. Ça, c'est un changement radical.
Ah oui, c'est absolument un changement radical parce que cette chanson, c'est une chanson de joie, de communauté et qu'on chantait, qu'on se touchait parce qu'on est très tactile en Afrique. Et la raison pour laquelle j'ai fait cette chanson, c'est qu'on parle à la télé, tout le monde est au courant dans le monde entier, mais il y a des parties entières de l'Afrique qui ne sont même pas au courant de ce qui se passe. Ceux qui n'ont pas accès à Internet, ceux qui n'ont pas accès à la télévision, qui écoutent depuis des siècles, je dirais, la radio. Donc, on a décidé avec l'UNICEF de faire ce message avec cette chanson qui est connue partout, jusque dans les endroits les plus reculés en Afrique, pour leur dire qu'il y a une maladie qui s'appelle le Covid-19 qui est arrivée et qui est en train de tuer. Et que ce Covid fait, c'est justement dans les gestes du quotidien. Se toucher, se parler, s'embrasser, prendre son enfant. Les personnes âgées sont très très importantes en Afrique parce qu'elles sont la mémoire et elles sont aussi le ciment de nos sociétés. Donc, ces personnes, on a une obligation de les protéger. Et que si ce message passe par cette chanson, en dansant, on le fait, les gestes deviennent complètement intégrés dans la vie au quotidien. Et ce n'est pas un message d'anxiété, c'est un message pour dire aux gens, mais après le Covid-19, on pourra se toucher, mais en attendant, on va se protéger.
Oui, mais alors justement, c'est toute la question quand même, Angélique Kidjo, parce que il y a les gestes barrières, et dans le mot barrière, il y a effectivement cette séparation, cette idée de frontière. On parle de distanciation sociale, alors certains préfèrent l'expression distanciation physique, mais c'est vrai que pour de très nombreux artistes, puisque nous sommes dans une émission culturelle, c'est une catastrophe, parce que les comédiens en particulier, lorsqu'ils sont sur les planches ou devant les caméras, ils peuvent pas jouer sans se toucher, ils peuvent pas jouer sans communier aussi avec un public qui serait masqué en tenant les spectateurs à distance. Ça va changer énormément de choses artistiquement parlant, vous trouvez pas?
Ah oui, ça va changer énormément de choses. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on soit créatif. Nous sommes des créatifs. C'est donc l'endroit où on travaille, notre espace de travail, il faut l'adapter au public pour que le public se sente confortable. Moi, je pense que dans les théâtres, il faudra mettre des sièges différemment, penser à une autre façon. Vraiment, pour que les personnes écoutent de la musique ou aillent voir des pièces. On peut jouer quand on est comédien. On n'a pas forcément besoin de se toucher, mais on peut parler avec le corps. Être comédien, c'est justement ça, dire les choses et qu'on sente se toucher à travers les mots. Et la musique, c'est pareil. Sur scène, bien sûr, il faudra qu'on s'organise autrement et qu'on mette des plexiglas peut-être pour séparer les percussionnistes du batteur comme on fait dans les salles. Avec à l'acoustique très sensible. Moi, je pense qu'il faut être créatif dans ce sens-là pour que on ne perde pas la culture. Parce que si on perd la culture, on perd notre humanité.
Est-ce que le rapport, est-ce que le rapport à notre corps est en train de changer? Enki Bilal, et avec lui la façon d'exprimer nos sentiments, nos émotions, notre rapport à l'autre d'une façon générale.
Bah, on est effectivement, on est obligé à une forme de distanciation. Donc le regard change aussi hein, sur l'autre. Le fait aussi d'être très très rare dans les rues. Les premiers jours, en fait, les premiers jours du confinement étaient assez intéressants sur ce plan-là. Il faut savoir, par exemple, on le sait tous, hein, que toute une génération de gens qui vivent aujourd'hui n'ont pas connu de guerre. Hein. La Seconde Guerre mondiale est loin, la guerre mondiale très très loin. Et donc on était confronté à une espèce de situation de guerre. Moi, c'est ce que j'ai compris les deux, trois premiers jours. Après, évidemment, les choses ont changé et puis les choses ne sont pas forcément comparables. Mais ce sentiment de sortir tout d'un coup avec toute la panique aussi qu'on orchestrait de manière parfois inconsciente les médias, et on était tous à l'écoute des spécialistes, des médecins, des infectologues, on était dans quelque chose d'assez sidérant quelque part, et lorsqu'on sortait dans la rue, et on était un peu comme ces gens à Sarajevo, donc une guerre qui a eu lieu il y a quelques décennies, dans les années 90 en Europe, où des gens sortaient et prenaient le risque. Nous, on prenait le risque de se prendre un virus et eux, ils prenaient le risque de se prendre une balle de sniper. Donc, les choses ne sont pas forcément comparables, mais il y avait ce sentiment, tout d'un coup, de sidération. Donc, on voyait l'autre de loin. On se méfiait, on ne s'en approchait pas. Donc, il y a cette heureusement, ça n'a pas duré très longtemps, mais en tout cas, on a pris un peu conscience tout d'un coup de la fragilité aussi de l'humain et ce que disait tout à l'heure Bernard Werber, cette espèce de bestiole absolument invisible, minuscule, qui tout d'un coup s'attaque et fait la loi, une loi qui est totalement planétaire, puisque plus de la moitié de la population mondiale a été confinée, avec une espèce de panique aussi, sans doute qu'on a fait trop, on est allé trop loin aussi d'une certaine façon, on n'a pas forcément bien compris, mais en tout cas il y a de quoi se poser réellement des questions sur la place de l'homme dans l'après. Alors l'après, y compris sur la culture, moi évidemment j'espère que ce virus finira par disparaître, mais subsisteront, je pense, des restes de cette expérience. Et sans doute, j'espère qu'on grandira quelque part.
Mais justement, est-ce que le risque, Bernard Werber, c'est pas que nous entrions tous dans une forme de société du risque généralisé, une société de la peur de l'autre, une société de la suspicion aussi, une société du principe de précaution posé comme principe suprême? Parce que c'est vrai qu'on se regarde peut-être d'une façon différente lorsque l'on croise quelqu'un encore aujourd'hui dans la rue, et ce sera peut-être même encore plus le cas lorsque le déconfinement sera complètement ouvert.
D'un certain côté, oui, mais d'un autre côté, Internet et justement tous les systèmes de réseaux sociaux, informatiques, virtuels, eux par contre ont pris énormément d'importance. Moi je me suis mis par exemple depuis le confinement à faire des Facebook Live qui arrivent à réunir à peu près 70 000 personnes. J'ai jamais, dans mes conférences, dans mon spectacle de théâtre d'hypnose, j'ai jamais eu 70 000 personnes. Donc c'est en train de se déplacer. Alors en effet, on n'a plus le regard direct, on n'a plus le contact, on n'a plus l'odeur, on n'a plus le toucher, on ne s'embrasse plus. Mais par contre, on peut malgré tout communiquer. Tout à l'heure, Hakim Bilal parlait de Sarajevo, mais il suffit de se mettre à la place de tous les gens qui ont vécu des confinements dans le passé. Je pense notamment aux gens qui ont vécu dans des villes assiégées ou dans... Oui. Des villes sous la peste, je peux vous dire, ils n'avaient pas Internet, ils n'avaient pas Zoom ni Skype, et ils attendaient même sans savoir. La peste avant, on ne savait même pas de quoi il s'agissait. C'était un mal qui frappait les gens, mais il n'y avait pas d'explication. Nous, on bénéficie de communication tous les jours. Il y a des scientifiques qui nous expliquent comment ça fonctionne. On sait qu'il y a d'autres scientifiques qui cherchent des solutions. À l'époque, ils faisaient juste que subir ça en restant enterrés chez eux, sans télévision, sans radio, sans Internet, sans téléphone. Ça devait être quand même beaucoup plus difficile. Nous, finalement, on vit une situation de crise très confortable par rapport à celle qu'ont vécu nos ancêtres.
Alors, vous parliez de science et de technologie à l'instant, Bernard Werber, et on va justement écouter l'écrivain et avocat François Sureau, interrogé sur la chaîne de télévision TMC à propos de cette idée des applications numériques de traçage, hein, déjà en vigueur, on le sait, dans certains pays asiatiques et peut-être dans quelques semaines en France. François Sureau.
On vous dit par exemple, ça sera un mécanisme volontaire. Puis un jour, on cessera de le rendre volontaire. On vous dit, on ne l'utilise qu'en temps de pandémie. Et puis un jour, on l'utilisera contre la grande délinquance ou contre autre chose qui nous déplaira. Et à chaque fois, il y aura des gens pour dire, mais c'est bien, pourquoi ne le faisons-nous pas ? Toute l'histoire des libertés publiques depuis 20 ans, c'est que chaque période exceptionnelle a vu un recul des libertés, alors même que ça n'était pas absolument nécessaire. Le terrorisme et maintenant la pandémie. Oui, il en restera quelque chose pour une raison assez simple, qui est que les gens diront, bah, vous voyez, ça a été utile pour la pandémie, bah, maintenant ça va être utile contre la grande délinquance. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vous pourrez me dire, vous comme moi, au fond, bah, c'est pas grave, on n'aime pas être des propagateurs du virus et on n'est pas prêt à être des délinquants. Oui, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe ? C'est une société qui n'est pas la société dans laquelle nous voulons vivre. C'est une société dans laquelle l'État saura si vous allez voir un de vos copains, un opposant politique, quelqu'un d'infréquentable. C'est une société dans laquelle on rentrera chez vous, dans l'intimité de vos cerveaux. C'est véritablement la société dont Orwell parlait. Et sous ce rapport, toutes ces évolutions m'inquiètent énormément.
Enki Bilal, est-ce que vous partagez les inquiétudes de François Sureau ?
Oui, effectivement, Orwell, 1984, ça flotte dans l'air quelque part. On est forcément obligé d'y penser. Inquiétude, je pense qu'on y est déjà dans cette société. On est déjà tracé. On est parfaitement fliqué d'une certaine façon. Internet nous permet de, avec une espèce d'addiction naïve, de donner des tas d'informations qui, si on était tout à fait conscient de leur ampleur, on serait absolument scandalisé, on serait totalement sidéré. Donc on est déjà rentré dans ce monde-là. Ce qui se passe en Chine, on le sait tous parfaitement maintenant. La reconnaissance faciale, on est totalement sur la voie de quelque chose de dictatorial et voire planétaire. Maintenant, ce Covid, cet arrêt tout d'un coup brutal, va avoir peut-être cette vertu du questionnement réel, à savoir quelle est la place de l'État. L'État ne sortira pas forcément grandi de cette aventure. Hein. Je ne parle pas seulement de la France, je parle de tous les États. Il suffit de voir ce qui se passe aux États-Unis, il suffit de voir ce que raconte Trump avec du détergent qu'il faut avaler pour détruire le microbe. On est quand même dans un monde absolument démentiel. Donc là-dessus, il n'est pas du tout sûr que l'après soit aussi tranquille que ça pour des systèmes installés. Donc je pense qu'il va y avoir des réactions. Je pense peut-être à une nouvelle génération qui piaffe d'impatience et qui va tirer des enseignements avec beaucoup plus de volonté et d'envie de prendre le pouvoir. Alors ça, c'est une des possibilités. C'est la possibilité un peu utopique peut-être, mais à laquelle il faut aussi croire. Une prise de conscience et une génération qui tire les enseignements des faillites de ceux qui nous ont précédés ou ceux qui sont encore au pouvoir.
Oui, donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Angélique Kidjo, à ce besoin de transformation radicale à l'échelle de la planète. Donc vous n'êtes pas de ceux qui, comme l'écrivain Michel Houellebecq par exemple, prédisent que le monde de demain sera le même, mais en pire.
On a un peu pire. Allez-y,
Angélique.
Non, le monde est déjà pire parce que les technologies qui sont arrivées, au lieu d'être des outils, sont devenues fondamentaux dans nos vies. C'est-à-dire que d'abord, ça a été Internet et Facebook et tout ça, c'était déjà un danger pour la démocratie. Au jour d'aujourd'hui, ça montre l'incapacité des démocraties à avoir des solutions avec le peuple, dans la concertation avec le plus grand nombre de personnes, pour ne pas aller vers la dictature. Moi, je me rappellerai toujours quand la Chine s'est ouverte. J'ai dit ceci et tout le monde m'a dit, ça ne se passe pas. Angélique, ce n'est pas vrai. Je dis, la Chine s'est ouverte pourquoi ? Elle a pris son temps pour observer nos démocraties et ses faiblesses. Et on est tous rentrés dans ce piège que la Chine nous a préparé. On a perdu de vue la souveraineté des États. Le virus de Covid-19, on n'a pas de masque, on n'a pas eu assez de masques. On dépend de la Chine pour les masques. Et on est en retard pour les faire. Les gouvernements qui ont plus ou moins, comme l'Allemagne, gardé une certaine solidité de leur système de santé et scientifique, s'en sont sortis mieux. Au jour d'aujourd'hui, pour sortir du déconfinement, au lieu d'appeler à la responsabilité des uns et des autres, de faire confiance aux citoyens pour faire les bons choix, on nous dit qu'il y aura quelque chose qui va nous tracer. Après les attaques terroristes, déjà nos libertés déjà été en danger. Au jour d'aujourd'hui, c'est le dernier fragment de cette logique chinoise d'installer la dictature partout. Donc si on commence à faire ça, bon, mais comme il disait monsieur Bilal ou le scientifique qui parlait à la télé, ben on aura chez nous, il y a plus de chez nous, on n'a plus d'intimité, il n'y a plus rien, c'est tout.
Bernard Werber.
Alors, je partage l'avis d'Angélique et d'Inky Bilal, dans la mesure où j'étais en Chine au moment où il y avait les révoltes à Hong Kong, et j'ai pu voir jusqu'à quel point la Chine est rentrée dans quelque chose qui va bien au-delà de 1984, puisque non seulement il y a la reconnaissance des visages, mais il y a aussi le système du crédit social. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous comportez comme ce qu'ils considèrent un mauvais citoyen, on vous enlève des points. Quand vous avez... au début, quand vous perdez des points, on vous enlève le droit de voyager puis en dehors du pays, puis le droit de voyager à l'intérieur du pays, en dehors de votre région. Puis après, on vous enlève le droit d'être soigné. Puis on vous enlève le droit à l'éducation pour vos enfants, puis le droit à la retraite. Et si vous continuez à être un mauvais citoyen, on enlève ce droit à la retraite ou à la scolarité à votre frère, à votre femme, à vos parents. Donc ce système de punition... qui est une tradition chinoise très ancienne qui remonte au premier empire, donc 300 avant Jésus-Christ, et quelque chose qui a été admis très facilement par la population chinoise et qui évidemment va fasciner les autres pays qui se disent pourquoi on ne donnerait pas des points. Vous savez, un peu comme les points qu'on voit sur Internet pour Amazon, des étoiles de bons citoyens à mauvais citoyens, et on enlève des droits aux mauvais citoyens et on donne des droits davantage aux bons citoyens. On y est déjà. C'est bien au-delà de 1984, mais ce qui se passe, c'est que la plupart des gens sont d'accord avec ça. Il n'y a pas de révolte en Chine, en tout cas pas de révolte connue contre ça. Et il faut voir aussi que sur Internet, les gens mettent toutes les informations sur eux, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord. Donc c'est un changement de mentalité. Il faut déjà demander aux gens, est-ce que entre les avantages que vous offre Internet et la sécurité que vous offre le gouvernement, vous êtes prêt à lâcher un peu de votre liberté et de vos droits. Et après, il faudrait qu'ils votent, puisqu'au final, c'est des choix. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. On ne peut pas avoir la sécurité et la liberté. Donc, entre les deux, il y a un choix à faire. Et c'est au niveau mondial, je pense, que ça va se passer. Mais en tout cas, la Chine est en tout cas une source de totalitarisme planétaire, c'est évident. Et en dehors d'être une source de virus, il faudra voir même si ça n'a pas été fait autrement que par le marché de Wuhan, qui est peut-être en effet ce fameux laboratoire secret qui pourrait en être la source.
Donc énormément de questions scientifiques, de questions historiques, de questions politiques, de questions économiques, on l'a compris, Inky Bilal, autant peut-être également de pistes pour inventer de nouvelles histoires. Vous pensez que dans vos scénarios, dans vos dessins, il y aura un avant et un après crise du Covid ?
Alors moi dans ma propre démarche, je suis déjà au-delà hein, d'une certaine façon. Mais ce qui est intéressant, et je pense que même ça, je serais transformé humainement aussi par cette expérience, parce que c'est finalement quelque part un goût de guerre que nous on n'a jamais eu. Ceux qui ont eu la chance, comme moi, de vivre dans des démocraties et de ne pas subir de conflits, même s'il y a eu des conflits sporadiques sur la planète, mais un conflit purement global, on n'a pas connu. Donc il y a eu ce petit goût des deux, trois premiers jours, mais ça m'a vraiment marqué parce que j'ai beaucoup réfléchi et je me suis vraiment mis à la place de tous ceux qui ont connu des situations de guerre. Donc ça forcément c'est une expérience qui va me resservir sans doute dans mes prochains récits, forcément.
Bernard Werber, est-ce que ce Covid va être un accélérateur d'imaginaire et de création pour l'écrivain que vous êtes ?
Alors, comme vous signalez au début de l'émission, j'annonçais ça en 2012 dans Troisième Humanité. Pour moi, c'était évident qu'après, c'était la grippe à H1N1 qui m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, ça a démarré doucement, mais ça va taper plus fort. Je vais surtout pas écrire de livre pour en parler, parce qu'il va y en avoir 150 000 qui vont sortir à la rentrée.
Oui.
Par contre, j'ai tout comme un petit village, j'ai une réflexion au-delà. Moi, je pense qu'on va aller au bout de nos erreurs. Je ne crois pas que l'homme va devenir raisonnable d'un coup. Mais une fois qu'on aura payé très cher, et là, on commence à payer, mais je pense que le prix va être encore plus cher, il y aura un moment où ça va devenir obligatoire. Tout le monde va devenir conscient. Je n'ai pas d'autre terme, mais conscient qu'il fait partie d'une planète, qu'il doit respecter cette planète. Comme dit Angélique, qu'on doit dire merci à la nature pour ses fruits. On doit dire merci à tout ce que... L'homme considère que tout ce qu'il prend lui appartient. eh ben, il y a un moment, il faut qu'il se dise, tout ce qu'il prend, il le négocie avec la nature, il doit lui dire merci, et il doit lui donner quelque chose en retour. Comme disait Angélique, quand on prend un arbre, il faut replanter un arbre. D'ailleurs, moi-même, je me suis toujours dit, vu que je suis issu de cette nature, j'aimerais être nu dans la terre quand je serai mort, pour être mangé par les vers et que mes oligo-éléments nourrissent la planète et permettent à des végétaux de repousser. C'est-à-dire rester dans l'écosystème, non pas être dans une boîte de plastique hermétique qui empêche toute forme de vie de pouvoir me désintégrer pour me remettre dans la nature. Je crois que l'homme va aller au bout de cette expérience dure, comme un enfant qui fait des bêtises. Il va avoir une fessée, et une fois qu'il aura la fessée, il va comprendre que son intérêt, c'est de se comporter autrement. Se comporter autrement, ça veut dire maîtriser sa croissance, maîtriser aussi la croissance démographique, c'est-à-dire ne pas faire des enfants qu'on ne peut pas éduquer, qu'on ne peut pas aimer, ne faire que les enfants qu'on peut gérer, et ensuite ne consommer que ce qui est indispensable, arrêter avec cette société de gaspillage qui est encouragée par la publicité. On n'a pas besoin d'avoir toutes ces choses en plastique qui encombrent nos maisons. Et on a juste besoin de manger, de respirer, de nous promener dans les forêts, de respirer de l'air pur, et c'est largement suffisant. Et une fois qu'on sera revenu raisonnable, après, je pense que... vous savez, je suis un optimiste. Je pense que tout va s'arranger.
Alors,
qu'au bout de nos erreurs, au final, il va y avoir un monde meilleur.
Oui, vous aussi, vous êtes optimiste, effectivement.
Je pense vous parler d'enfants tout à l'heure. Excusez-moi de vous interrompre, c'est qu'on dit qu'on va avoir moins d'enfants. C'est quand on réduit la pauvreté qu'on a moins d'enfants. Tant que les gens, la majorité de la planète sera pauvre, ils auront des enfants. Parce que c'est en faisant des enfants qu'on survit. Parce que la pauvreté tue et que les parents pauvres ont besoin d'enfants pour s'occuper d'eux, pour travailler dans les champs, et ainsi de suite. Donc, pour moi, l'une des choses auxquelles on doit s'attaquer, c'est la pauvreté, et que les Nations Unies ne soient plus aussi, qu'il n'y ait plus de lobby dans les Nations Unies, parce que les Nations Unies doivent être neutres au jour d'aujourd'hui, et c'est pas neutre, il y a trop de lobby, trop de puissance, et le Conseil de sécurité est fait de 5 personnes, il faut que ça change, il faut que ce soit ouvert à plus de pays pour qu'il y ait une justice, qu'il y ait une visibilité, qu'il y ait une transparence.
Voilà, merci beaucoup Angélique Kidjo, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Angélique Kidjo, Enki Bilal et Bernard Werber. Et continuez évidemment de créer, d'imaginer, parce qu'on va tous évidemment avoir besoin d'histoires, de livres, de musique, de spectacles, de films, pour se changer les idées, pour plonger dans le rêve, l'imaginaire, et inventer précisément ce monde d'après. Merci encore. Avant de se quitter,
merci.
Un petit mot pour un grand salut amical et un grand merci à Tania Tsikounas, qui a beaucoup apporté à cette émission pendant ces 7 derniers mois. Je suis sûr que toute l'équipe de VMDN partage ma reconnaissance et lui souhaite évidemment avec moi plein de succès dans ses projets personnels et notamment artistiques, théâtraux en particulier. En attendant de la retrouver, Tania, tu as été top. Dans un instant, le journal sur RFI. On se retrouve lundi avec Stéphanie Hochet pour son roman Pacifique, paru aux éditions Rivage. Et vous m'en direz des nouvelles.
No touch time. The virus can be beaten by us. And soon, the coast will be clear again. Littérature.